RCF.
Cyberattaque, cybercriminalité, explosion des volumes et tentative de fraude, ça va être passionnant. À tout de suite. Eh oui, de plus en plus dans notre vie, cyberattaque, cybercriminalité, on est en plein dans l'actualité, chers auditeurs et auditrices. Ça devient vraiment un phénomène absolument incroyable, les technologies nouvelles. Et j'ai deux spécialistes sur ces sujets. Justine von Minden, appelée Amidala, c'est le surnom, elle va nous dire pourquoi. Et Roman Segura, appelé Métis. Alors toutes les deux, vous appartenez à un cabinet Cyberwings à Marseille, alors très compliqué, de hacking éthique, alors ça devient un peu compliqué, mais je vais m'adresser tout de suite à Justine von Minden. Dites-moi, explosion des volumes de cyberattaque, d'ailleurs pour le grand public qui nous écoute, c'est quoi concrètement une cyberattaque ?
Bonjour Teddy, une cyberattaque c'est le fait de s'en prendre à un système d'information. Donc que ce soit au niveau d'organisations publiques, d'associations, au niveau d'entreprises, et même certains particuliers peuvent être touchés par des cyberattaques. Donc le système d'information peut être compromis du point de vue de la confidentialité de l'information, du point de vue de l'intégrité de l'information, ou alors de sa disponibilité. On n'aurait plus accès à nos données, on aurait des données qui seraient compromises, qui ne seraient plus réelles, qui ne seraient plus fiables, ou alors carrément des données pourraient fuiter. Ouais. Et ensuite, c'est l'exploitation de ces vulnérabilités qui va en fait, mettre les individus ou les sociétés, les entités, dans des situations catastrophiques.
Alors, ça peut toucher tous nos outils, ordinateurs, portables, j'en passe les meilleurs.
Absolument, un système d'information, c'est différentes composantes, c'est des composantes technologiques, techniques, des équipements, logiciels, des applications, des réseaux, c'est aussi des composantes physiques et des composantes humaines. Donc à tous ces niveaux-là, on peut être finalement affecté, des vulnérabilités peuvent être exploitées et une cyberattaque peut s'appuyer sur ces différentes failles au niveau opérationnel, technique et humain.
Alors très souvent on dit, on voit les reportages, que ces professionnels de la cyberattaque, ils sont extrêmement formés, c'est incroyable. Et notamment ça vient d'autres pays. Hein.
Tout à fait, on a plusieurs typologies d'attaquants, bien sûr les attaquants étatiques. Alors c'est la catégorie, on va dire, un petit peu la plus complexe, parce que in fine, on a ce qu'on appelle des Advanced Persistent Threats, c'est des APT. En fait c'est des groupes cybercriminels qui sont affilié indirectement à un État. Un État peut pas revendiquer sur la scène internationale avoir des équipes d'attaquants, etc. Donc voilà, c'est vrai qu'on a des attaques à la fois d'attaquants, des groupes ce qu'on appelle activistes, qui vont en fonction de leur idéologie, qu'elle soit politique, qu'elle soit religieuse, qu'elle soit financière, économique, vont aussi conduire des attaques et vont changer leur orientation. Des fois, ils vont être affiliés à tel État ou à un autre groupe cybercriminel. Donc, on a des typologies pour comprendre ces attaquants-là, mais c'est des typologies qui sont très mobiles.
Pour rebondir sur ce que tu dis, Métis, effectivement, chaque typologie d'attaquant aura sa motivation, une motivation spécifique. Dans le cadre des menaces étatiques, c'est essentiellement, et c'est ce que relève d'ailleurs l'ANSSI, l'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information, c'est essentiellement une motivation d'espionnage industriel, d'espionnage stratégique ou de déstabilisation, que ce soit du point de vue militaire, sociétal, voilà, on en a des exemples récents dans l'actualité. Donc ça, c'est vraiment pour les menaces étatiques. Et on va dire la cybercriminalité au sens un petit peu général, là, la motivation, elle est essentiellement lucrative. C'est d'arrondir ses fins de mois pour des petits groupes, ou alors c'est de l'escroquerie généralisée. Mais voilà, en tout cas, c'est ses principales motivations qui reviennent. Et le groupe que tu citais, un petit peu particulier, l'activisme, où là, il y a plutôt une dimension morale, ou en tout cas de défendre une cause.
D'accord. Alors parmi les États, on est en plein dans l'actualité, on nomme souvent la Russie, les États-Unis, le Japon, etc., qui viennent espionner. Ce sont des États quand même qui ont des moyens, avec des équipes sans doute excessivement importantes.
Tout à fait. Après, voilà, comme je le disais, chaque État a sa propre politique en matière de cyber, d'attaque et de défense. Après, voilà, c'est vrai que ça reste des catégories plutôt mobiles.
Alors, quels sont ce genre d'attaques, justement? Comment ça se passe? Alors, on va commencer par les particuliers, les entreprises, on va en parler. Bon, mais nous avons des exemples tous les jours. Quels sont ce genre d'attaques qui se développent, qui se multiplient? Des exemples concrets?
Des exemples concrets, si on prend la catégorie des particuliers, ça va être des exemples d'arnaques, d'escroqueries le plus souvent, qui s'appuient sur des usurpations, alors des usurpations d'identité, de tiers qu'on a dans notre écosystème, la banque, le prestataire, le vendeur de voiture, l'assurance maladie. Ça peut être aussi de l'usurpation d'identité de personnes. De personnes, enfin de contacts qu'on a dans notre famille et en s'appuyant notamment sur des informations qui sont disponibles sur nous, sur notre famille, sur notre environnement et qui sont alors soit achetées, soit trouvées dans des phases de reconnaissance par les attaquants et qui sont ensuite exploitées pour, disons, faire baisser le niveau de vigilance de l'intéressé et le conduire à faire réaliser une action. Ça s'appuie notamment sur des techniques de persuasion, d'influence, appuyées sur des biais cognitifs, des biais psychologiques, de persuasion, faire usage d'autorité et évidemment crédibiliser au maximum l'attaque par une usurpation qui paraît réelle. Utiliser le logo, la charte graphique d'une entreprise ou d'une entité avec laquelle on a l'habitude d'interagir comme la banque, usurper le nom de domaine, c'est-à-dire la petite adresse que vous avez à la suite du arrobase dans une adresse mail ou alors dans une barre d'URL sur un site web, par exemple. Voilà, si on va utiliser un nom très proche de l'assurance maladie, bah, Amélie, Amélie, par exemple,
Justement, justement.
avec un E à la fin comme le prénom et pas I comme le service public. On pourrait être amené à cliquer sur le lien. D'ailleurs, on avait fait un épisode de notre podcast sur ça, sur l'usurpation des noms de domaine, qui est très intéressant.
Alors, ce qui est fantastique, on se fait tous piéger. Un exemple incroyable, c'est la carte vitale. La carte vitale, je veux dire, boum, on vous dit, vous devez renouveler votre carte vitale alors que c'est faux. Et puis, vous tapez, machin, et vous vous faites piéger.
Oui, et souvent les attaques sur les particuliers, comme ça, les escroqueries sur les particuliers découlent d'attaques plus, disons, plus structurées, plus avancées sur des collectivités territoriales, sur des institutions publiques, sur des grandes entreprises qui détiennent beaucoup d'informations sur nous, beaucoup de données sur nous, d'où l'intérêt de protéger ces données, hein, et qui se font attaquer. Et ensuite, ces données-là fuitent pour être récupérées, vendues d'abord sur des espaces troubles des internets, les darknets, et ensuite pour être utilisées par les groupes cybercriminels pour conduire ces attaques. Si on n'a pas, si le groupe cybercriminel n'a pas à sa disposition notre numéro de
Bien sûr.
sécurité sociale, des informations qui sont légitimes, qui sont véritables, bah, l'attaque sera moins facilement crédible. Donc ça découle vraiment d'attaques de plus grande ampleur.
Alors, faut des exemples concrets. Ça m'est arrivé, justement, Justine. Je me fais appeler par mon banquier. Je vois sur mon portable le véritable numéro de téléphone de ma banque. Le banquier, le pseudo-banquier, commence à me parler pour détourner mon compte. Et je veux dire, comment ces gens-là peuvent avoir ou se faire passer pour le numéro véridique d'une banque? Et là, beaucoup de gens qui nous écoutent se font piéger. Donc attention, une banque n'a pas à vous appeler, justement, il faut le redire. Une banque ne vous appellera jamais au téléphone.
Complètement. Toutes les précautions à prendre en général dans ces cas-là sont communiquées par les tiers véritables. Les banques font de la sensibilisation sur vraiment les modes de communication qu'elles utilisent et ceux qu'elles n'utilisent pas, la partie vigilance, tout ça. Normalement, vous avez suffisamment d'informations disponibles sur votre application bancaire, par exemple, pour être sensibilisé à ça. Comment ça se passe d'un point de vue vraiment mode opératoire du point de vue de l'attaquant? Alors, c'est une technique, on va peut-être pas rentrer dans les détails, mais de SIM swapping, donc un échange d'informations au regard des cartes SIM. Et ensuite, notamment sur la partie orale, c'est notamment du deep voice. C'est la création d'une fausse voix par différentes techniques, notamment en utilisant de l'intelligence artificielle pour bah, voilà, se faire passer pour la personne qu'on tente d'usurper. Ça marche aussi sur l'image. Avec des deepfakes, ça marche sur la vidéo, et on a de plus en plus de cas, voilà, où même des patrons d'entreprises très connus qui ont par exemple des interviews en ligne, sur YouTube, à la télé, se font carrément usurper leur visage dans des fausses vidéos, puisqu'il est facile de recréer soit des vidéos, soit des voix à partir des informations qui sont en ligne. Donc ça, c'est un conseil général, c'est de vraiment faire de la veille et d'appliquer une forme d'hygiène numérique sur les informations qui sont disponibles en ligne sur soi-même, pour ne pas qu'un attaquant puisse reconstituer en fait un puzzle et atteindre, toucher la cible en crédibilisant une attaque.
Ça veut dire quoi, hygiène, comment se protéger ?
L'hygiène numérique, c'est vraiment d'avoir les meilleurs comportements possibles sur Internet. Typiquement, vous allez sur Google, vous tapez votre nom, votre prénom, et vous voyez tout ce qui ressort sur vous sur Internet. Est-ce que votre compte Facebook, il est public, par exemple ? Ben, s'il est public, je vais pouvoir récupérer votre date de naissance, peut-être votre adresse mail, vos centres d'intérêt, parce qu'il y a beaucoup de groupes sur Facebook. J'aime la cuisine, j'aime le jardinage. Et on va pouvoir, un attaquant, il va pouvoir récupérer ces informations-là et créer un scénario complètement adapté à vos centres d'intérêt, à votre personne, et vous allez avoir d'autant plus de chances de, entre guillemets, tomber dans le panneau. Après, comme le disait Justine, ils utilisent aussi beaucoup de canaux psychologiques. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, pour l'arnaque aux faux conseillers bancaires, ils vont vous mettre la pression ou alors ils vont vous mettre en confiance. C'est vraiment très fin, très précis, bien travaillé. Et voilà. Et l'hygiène numérique, c'est prendre conscience de tout ce qu'il existe sur nous, sur les internets, et évidemment, de sélectionner ce que l'on veut ou pas mettre en avant. Et c'est tout à fait possible, par exemple, de mettre des comptes de réseaux sociaux en privé, par exemple, d'utiliser des pseudos, comme on a avec Amidala, si on veut pas qu'on nous retrouve, sur Internet, ou pour préserver sa vie privée. Mais voilà, il y a plein de petites techniques comme ça qu'on peut mettre en place.
Mais ça devient assez grave, grâce à malheureusement l'intelligence artificielle. Là, c'est le mauvais côté, l'intelligence artificielle. On fait des choses incroyables. On usurpe les voix, l'image, etc. Et c'est pas fini. Ça va aller beaucoup plus loin. Hein.
Complètement. Le cas de l'intelligence artificielle, c'est un très bon exemple de comment la technologie peut être une opportunité pour développer des usages, pour être plus performant, etc. Mais peut être aussi un risque, et comment on utilise cette technologie. Typiquement, si on prend le cas de l'intelligence artificielle générative, comme ChatGPT, voilà, les attaquants en tout cas, les cybercriminels peuvent se servir de l'IA pour conduire des attaques plus rapidement et avec plus de chances de succès. Par exemple, on peut demander à un ChatGPT ou un équivalent de développer, de coder pour créer un malware, un logiciel malveillant qui va, peut-être un logiciel espion ou un logiciel qui va pouvoir s'introduire dans votre système d'information, etc. Et un code très efficace. On peut aussi imaginer d'utiliser l'intelligence artificielle, comme on le disait tout à l'heure, pour générer des fausses images, de faire de l'influence, des fake news, etc. Et là, venir atteindre plutôt la bonne cohésion dans une société, atteindre finalement la vérité. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, comment on déstabilise une société, une population entière.
Et éventuellement aussi, pour compléter, l'intelligence artificielle, elle est vraiment utilisée par les attaquants pour, à leur avantage. C'est-à-dire qu'ils vont vraiment se saisir de ces outils-là et on va avoir une multiplication en fait des attaquants. Ça devient tellement facile maintenant de créer un code malveillant, de s'approprier des outils. À la base, un code informatique, ça peut paraître compliqué. Il faut des études, apprendre à coder, des langages, etc. Maintenant, en fait, on demande à l'IA de nous créer un bout de code. Hop, là, on le récupère, on additionne divers bouts de code et on crée un logiciel malveillant, un malware. Et donc, en fait, on se rend compte qu'on a une multiplication des cybercriminels par cette accessibilité-là. L'IA, elle est un souci aussi par le fait de rendre vraiment facile et accessible la transformation de gentil à méchant.
C'est incroyable, oui. Est-ce qu'on peut se protéger ? On peut s'abonner, par exemple, sur notre ordinateur, on paye un abonnement avec, soi-disant, des outils qui peuvent nous prémunir vis-à-vis de ces cyberattaques. C'est efficace ?
Il existe différents types d'outils, c'est vrai, mais aussi de réflexes et de bonnes pratiques pour se protéger. Mais dans le contexte de la cybercriminalité, des cyberattaques, l'attaquant a toujours un coup d'avance. Donc, du point de vue de la défense, on va toujours pouvoir effectivement mettre des barrières, plus ou moins en profondeur d'ailleurs. Mais l'attaquant cherchera toujours une façon de contourner les mesures de sécurité qu'on va mettre en place. Se reposer. Alors, il faut s'équiper, donc de l'antivirus, de l'authentification forte, des mots de passe forts, des gestionnaires de mots de passe, etc. Mais se reposer sur des outils en se disant que justement on est protégé grâce à nos outils nous empêche quelque part psychologiquement de savoir, enfin d'imaginer que l'attaquant pourra quand même contourner l'outil. Et donc on va peut-être baisser notre niveau de vigilance en se disant bah de toute façon on est protégé. Et ça c'est vrai pour les particuliers, c'est vrai aussi pour les grosses entreprises qui sont équipées, qui ont des services de sécurité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais ne jamais oublier que l'humain reste le principal rempart, on va dire, face à une cyberattaque. Et c'est toujours l'humain qui peut détecter que quelque chose est anormal, que voilà, cette prise de contact par le banquier, par le tiers, par le conjoint, etc., bah, ça, elle se fait pas dans les conditions habituelles, qu'il y a peut-être une nécessité de remonter l'information, qu'on a été contacté, etc. Donc c'est vraiment... voilà. La vigilance, la sensibilisation sont quand même les principaux conseils à appliquer, même si forcément il existe des outils, des techniques qui permettent de se protéger, oui.
Eh oui, de retour, cyberattaque, attention ceux qui nous écoutent. Justine von Minden, dite Amidala, on dirait une voyante, quelque part. Et Roman Segura, alias Bétis, du cabinet Cyberwings. À Marseille. Alors, vous nous faites un peu peur, Justine. C'est qu'on peut faire tout, mais on ne sera jamais assez protégé, surtout pour un particulier. Donc, comment faire? Alors, parlons d'abord des ordinateurs. On peut y arriver. Par exemple, des petites choses simples. Ne jamais cliquer quand on reçoit un mail avec un fichier joint. Ne pas cliquer sur ce fichier joint s'il nous apparaît un peu bizarre. Faire attention. Ce qui est fou quand même, c'est qu'ils sont prêts à reproduire les entêtes officielles de banque, de papier officiel, etc., etc. Moi, comme d'autres, j'ai été convoqué par le Haut Service à Paris parce que j'avais, soi-disant, été voir des sites pornographiques. Ils reprennent exactement la même structure, la même signature, et aussi en reprenant, j'ai été vérifié, le nom du patron de ce service. Je veux dire, mais il n'y a pas de moyen d'interdire ça.
Il y a différentes façons de se protéger, différentes bonnes pratiques qu'on peut citer là, notamment pour les particuliers. Donc déjà sur la partie appareil, connexion, ordinateur, quelques bonnes pratiques sont d'utiliser des mots de passe forts,
oui.
Ce qui est vos appareils, vos disques durs, vos comptes aussi sur différentes applications, réseaux sociaux, plateformes. Donc voilà, d'utiliser des mots de passe fort et unique pour chaque service, avoir un mot de passe différent. Pour vous aider là-dedans, il existe des gestionnaires de mots de passe, d'ailleurs certains sont gratuits, pour pouvoir garantir que voilà, chaque service a un mot de passe différent. Et pour vous en rappeler, c'est très compliqué, donc il vaut mieux avoir un gestionnaire. Ne pas hésiter à activer l'authentification à deux facteurs, c'est-à-dire avoir un mot de passe et ensuite une confirmation par un autre canal, que ce soit par le SMS, par un appel vocal, par un email, pour renforcer la sécurité à ce niveau-là quand vous vous connectez. Évitez tout ce qui est connexion sur les réseaux Wi-Fi publics, par exemple, qui ne seraient pas sécurisés, où là, des personnes pourraient facilement ensuite avoir des accès dans vos ordinateurs, dans vos comptes, etc. Évidemment, se méfier de tout ce qui est arnaque, phishing, smishing. Donc, le phishing, pour les auditeurs qui ne seraient pas familiers, c'est le fait d'envoyer des emails de hameçonnage, donc des faux emails, comme tu décrivais, en se faisant passer par quelqu'un d'autre. Donc, ça, c'est par le canal mail. Le smishing, c'est l'équivalent par SMS. Le phishing, par appel. Il existe aussi une sous-catégorie du phishing qui est le spear phishing, c'est-à-dire un hameçonnage ciblé sur une personne en particulier. C'est pas quelque chose de massif. On n'est pas face à une cyberattaque massive, mais bien à une cyberattaque très ciblée, puisqu'on veut aller peut-être piéger le chef d'entreprise ou cette personnalité politique. Donc c'est vraiment ciblé sur une personne. Et pour convaincre la personne de faire ce que l'on souhaite, donc de cliquer sur le lien, de donner son mot de passe ou quoi, va devoir rentrer en compte le scénario d'attaque, d'escroquerie. Et comment font les attaquants? C'est notamment via l'open source intelligence, la collecte d'informations en source ouverte, c'est-à-dire tout ce qui existe dans des sources ouvertes, sur les web, enfin sur les réseaux sociaux, sur le web, etc. Et qui seront de l'information qui paraît banale, un nom d'amis, le nom de votre chien, là où vous travaillez, l'organigramme de votre société, vos habitudes de vie, votre marque de voiture, etc. Mais qui, exploité par un attaquant malicieux, malin, avec de l'imagination, comme on en connaît dans notre écosystème, pourront effectivement crédibiliser le scénario et conduire finalement la personne à douter. Bah oui, est-ce que en fait j'ai pas véritablement fait une erreur lorsque je me suis connectée? Est-ce que voilà. Et qui mieux que vous-même connaissez finalement vos habitudes et connaissez vos actions? Donc il faut vraiment toujours être vigilant. Parmi les bonnes pratiques, la vigilance est vraiment très très importante.
Alors les achats, important pour ceux qui nous écoutent. On achète de plus en plus. Au niveau en ligne, je veux acheter chez Amazon, etc., etc. Il me semble toujours vérifier qu'on passe par un site sécurisé. Parce que, je sais pas, Amazon, par exemple, est-ce que c'est vraiment sécurisé? Parce qu'on achète, mais il recueille nos données.
Tout à fait, il recueille vos données. Peut-être faire attention, par exemple, si vous enregistrez votre carte bancaire. Ouais. Jamais enregistrer les cartes bancaires sur les différents sites d'achat. Après, pour se prémunir, bien regarder l'URL du site sur lequel vous vous connectez. Est-ce qu'il y a la petite mention HTTPS? Est-ce que dans votre barre URL, il y a le petit cadenas qui est fermé? Regardez la forme de l'URL. Si votre URL, c'est amazon.fr. Toutes les lettres de l'alphabet avec des chiffres, bon, c'est peut-être un petit peu bizarre. Alors que, voilà, il faut vraiment regarder... Comment est construit l'URL? Est-ce que c'est Amazon avec deux Z? Est-ce que c'est Amazon avec deux O? Enfin, vraiment, essayer un petit peu de, on va dire, ouvrir les perspectives et toujours être en fait vigilant du bon sens. Je ne vais pas cliquer sur une publicité Amazon qui apparaît sur les réseaux sociaux. Je vais aller sur mon navigateur, taper amazon.fr. C'est vraiment, en fait, il faut. C'est pas parce qu'on a une démultiplication des outils, des appareils numériques, qu'il faut éluder le bon sens. Toujours revenir vraiment aux habitudes de base. Votre conseiller bancaire vous appelle, c'est bizarre, il vous appelle jamais. Raccrochez, connectez-vous sur votre application bancaire et appelez le numéro de votre conseiller via votre application bancaire. Ne rappelez pas le même numéro qui vient de vous appeler. Toujours revenir au bon sens. Voilà. Passer en agence, dire bah voilà, on m'a passé un coup de téléphone, je comprends pas, etc. Et des fois, c'est le plus compliqué. On est tellement sollicité de toutes parts qu'on veut agir vite dans l'urgence, le stress et tout faire machinalement. Et en fait, les meilleurs comportements, c'est le bon sens. De la même manière avec l'intelligence artificielle, où on a beaucoup de fake news, de vidéos mensongères qui se diffusent, etc., qu'on repartage aussi entre nous. On a tous des groupes WhatsApp de famille, par exemple, ou d'amis, etc., où on se repartage de l'information, parfois des fausses informations. Toujours revenir au bon sens. Est-ce que telle personne a vraiment pu dire ça sans que la Terre entière, par exemple, en parle. Revenir, voilà. Est-ce que ce que j'entends, le son, correspond bien à l'image? Des fois, on a vraiment des gros décalages entre le langage d'élèves, même si on parle pas forcément, on lit pas forcément sur l'élève, on voit quand même la différence parole, son, etc. Voilà. Toujours revenir au bon sens et
Alors, au bon sens. Je pense aussi à un autre exemple. Tout le monde peut se faire piéger par rapport à ce que vous venez de dire. Impôts.gouv. Je veux dire, là, on reçoit des choses, on va voir, faire très attention, parce que des impôts.gouv, faut faire effectivement attention, vous venez de le dire, à impôts.gouv, ça peut être avec un E, etc. Donc, être extrêmement vigilant.
Tout à fait. Et si vous regardez bien, souvent, ce type d'attaque massive qui s'appuie sur des services publics, etc., sont toujours contextualisées et arrivent toujours au moment où, finalement, c'est peut-être légitime d'être contacté par les impôts, par l'assurance maladie. Ben là, typiquement, quand on est en fin d'année ou quand on doit faire sa déclaration d'impôt, il y a une multiplication des attaques qui utilisent ce contexte-là, puisqu'il est favorable finalement à l'erreur ou à ce que les gens se laissent tromper. On l'a vu aussi pendant la pandémie de Covid. On avait beaucoup d'informations et de fausses, enfin d'arnaques ou de cyberattaques qui utilisaient déjà l'atmosphère anxiogène autour de la pandémie, et puis des rendez-vous médicaux, puis des informations en lien avec cette crise sanitaire. Ce climat anxiogène a contribué à ce que les attaques déjà se multiplient et puis aient quelque part du succès chez les personnes. Pareil, pour tout ce qui est arnaque, un petit peu sur les faux achats, les faux sites marchands, les périodes de Black Friday sont des périodes, voilà, c'est vraiment, c'est du pain béni pour les attaquants. Il faut vraiment, voilà, se dire que les attaquants vont toujours exploiter le contexte à leur avantage, utiliser, voilà, que ce soit le contexte de la victime ou le contexte général. Donc ça, c'est vraiment important de l'avoir en tête. Et bon, quand même savoir qu'il existe des services en ligne pour signaler, même si on s'est fait avoir ou que voilà, il faut pas rester sans rien faire et être dans la paralysie. Il y a des choses à faire. Typiquement, si votre compte, un compte, je sais pas moi, sur une plateforme en ligne, sur un compte, un site marchand, etc., est compromis, vous pouvez directement faire la demande de changement de mot de passe. Si vous avez été touché par une fraude bancaire, bah, contactez la banque et signalez l'arnaque sur le site gouvernemental Perceval.
Ah, c'est important, ça.
Voilà, Perceval. Pour tout ce qui est cas de cyberharcèlement ou d'arnaque en ligne, plus généralement, il y a la plateforme Pharos, aussi, qui dépend du gouvernement, enfin plutôt de la police nationale. Donc, il y a quand même des acteurs dans l'écosystème, que ce soit à l'échelle nationale, à l'échelle régionale aussi, ou dans votre écosystème de confiance, amis, disons prestataires de premier niveau, etc., qui peuvent être contactés. Donc voilà, ne jamais rester tout seul face à ça. Il y a des personnes dont c'est le métier qui peuvent vous accompagner, vous sensibiliser et vous préparer pour les fois d'après.
Cyberattaque. Tiens, en quelques mots, Justine, d'une manière grand public, vous appartenez aussi au cabinet Cyberwings de Hacking Ethics. Ça devient un peu compliqué à Marseille. Quel est votre rôle? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Je vous ai appelé il y a quelque temps et vous partiez, je crois, en Afrique, je ne sais pas. Vous êtes des spécialistes, vous intervenez sur la planète entière?
Tout à fait. Donc, Cyberwings est un cabinet de hacking éthique et de management de l'information stratégique. Donc, pour le vulgariser un petit peu, le hacking éthique, c'est finalement reproduire les comportements des attaquants, des vrais hackers, enfin des hackers malveillants, des black hat hackers, comme on appelle, des pirates informatiques, au profit de nos clients, dans un cadre contractuel strict et dans un cadre moral, voilà, éthique, donné, défini, et reproduire ces comportements pour identifier les failles qu'il existe sur les systèmes d'information de nos clients et les aider à corriger ces failles et à être mieux protégés. Donc ça, c'est vraiment le cœur de notre activité. Et on accompagne, c'est pour ça qu'on parle donc de management de l'information stratégique, on accompagne aussi nos clients à identifier quelle est la valeur de la donnée qu'ils possèdent dans le cadre de leur activité, sur quels actifs techniques, informatiques, cette donnée repose, et comment se protéger contre les risques vis-à-vis de cette information-là. Et,
ouais. Alors, ce qui est fantastique, c'est que vous intervenez notamment pour des entreprises. Vous les informez, bien sûr, avant que vous allez vous faire passer à l'extérieur pour des malfrats. Donc, vous attaquez votre propre client et vous allez voir effectivement quelles sont ses failles. C'est un peu ça, hein.
Tout à fait. Alors, déjà, c'est le client qui va nous demander vraiment de l'attaquer. On va pas aller l'attaquer si on n'a pas, bien sûr, son autorisation. Ça, c'est vraiment, vraiment la base. Et voilà, l'objectif, c'est de définir avec lui ses pires cauchemars. Quelles informations, quels actifs il a besoin de protéger impérativement pour que son activité continue de fonctionner normalement. Au regard de ces événements redoutés, on va définir des scénarios d'attaque, on va définir de tester plutôt la partie web, plutôt le réseau interne de l'entreprise, plutôt la partie externe, ce qui est exposé sur les internets. Donc on définit un petit peu ce périmètre-là et après on sélectionne des attaquants parmi tous les profils qu'on peut avoir via notre écosystème. Donc on a bien sûr des pentesters en interne de l'entreprise, mais aussi des indépendants. Et en fonction aussi un petit peu du niveau ou de la complexité de l'attaque à mener, on choisit nos experts. Et après, voilà, on simule l'attaque. On trouve généralement toujours des vulnérabilités. Et après, ben voilà, on les expose aux clients et on l'accompagne aussi un petit peu pour y remédier, pour les patcher.
Par exemple, un exemple, ça peut nous arriver. Mon cher ami technicien est derrière les boutons, là. Est-ce qu'un jour et par qui RCF, Vaucluse, peut être attaqué et comment?
Tout à fait. C'est vrai que les médias, en plus la communauté de médias, représentent des cibles de choix pour des attaquants, notamment du fait de l'impact qu'une cyberattaque pourrait avoir en termes de réputation et de déstabilisation des sociétés. D'ailleurs, parmi ces acteurs-là, hein, que ce soit les médias, radio ou presse, etc., sont des acteurs très sensibles et qui sont particulièrement regardés par les agences nationales en termes de sécurité. Ce sont vraiment des acteurs stratégiques à protéger. Et type d'attaque, c'est typiquement l'usurpation d'identité de certains médias pour répandre des fake news, par exemple. On l'a vu avec les attaques récentes, notamment pendant les JO et pendant les élections législatives françaises, de la part d'acteurs affiliés à la Russie, dans le cadre de l'opération, par exemple, Matryoshka, où en fait des groupes cybercriminels russes, probablement affiliés au pouvoir étatique, hein, forcément, usurper l'identité, la charte graphique, tous les codes de certains médias, radio, télé, information en continu, pour répandre des fake news et faire perdre du temps aux fact-checkers, ces entités, ces organismes qui s'occupent de vérifier quelle information est véritable, laquelle est une fake news, etc. Faire perdre du temps à ces fact-checkers pour ensuite faire passer des messages, déstabiliser des sociétés. Donc typiquement, sur des médias, c'est un exemple, un cas d'attaque, d'ingérence qu'on peut constater.
C'est important. Est-ce que donc on parle aussi de phénomène de société et d'âge quelque part. Les jeunes, semble-t-il, enfin, sont-ils suffisamment formés dans leurs études pour se protéger? Ça me paraît pas du tout évident. Quant aux personnes dites un peu plus âgées, alors là, c'est carrément galère. Hein.
Oui, on a quand même en effet un effet d'âge vis-à-vis de l'appropriation des nouvelles technologies et forcément des risques qui sont inhérents. De notre côté, au sein de Cyberwings, on travaille beaucoup à véhiculer les bonnes informations et à faire, on va dire, diffuser la bonne parole. On enseigne dans les écoles d'ingénieurs, on enseigne aussi dans les grandes écoles, notamment à Sciences Po Ex ou à l'Illery. On a des cours vraiment très généraliste sur les bons comportements, la cybercriminalité, le lien avec les relations internationales, etc. Mais des cours aussi beaucoup plus techniques pour que ces étudiants-là comprennent que, en comprenant comment ça fonctionne, ils pourront à leur niveau, qu'importe les postes et les métiers qu'ils vont avoir, ils auront les bons comportements et ils sauront finalement décrypter, déchiffrer ce qui se produit pour retransmettre l'information et aller beaucoup plus vite en cas d'attaque.
Mais les attaques, elles visent en particulier, ils le savent, ces cybercriminels. Les personnes plus âgées, ce sont les gens les plus vulnérables.
Les personnes qui ne sont pas suffisamment sensibilisées, donc ça peut être des personnes vulnérables, en effet, des personnes âgées, des personnes qui n'ont pas été formées, des personnes qui n'ont pas reçu le bon niveau d'information et le bon niveau de sensibilisation, disons, mais pas que. En fait, l'humain, dans tous les cas, n'est pas infaillible, et c'est tout l'intérêt aussi de mettre en place des systèmes de sécurité, enfin de défense en profondeur, d'avoir différentes lignes de défense, un peu à la Vauban, hein, finalement, dans le cadre de la géostratégie, c'est-à-dire pour l'attaquant, d'avoir différentes lignes de défense à dépasser, à compromettre pour atteindre sa cible. Et au plus on multiplie ces couches de défense, que ce soit donc de la défense technologique, de la défense opérationnelle, physique, de la sensibilisation, au plus ça va être difficile pour un attaquant d'aller réaliser ces scénarios opérationnels.
Tout à fait. Et en plus, il ne faut pas oublier que la principale motivation des attaquants, c'est la dimension monétaire, financière. Donc en fait, plus ils vont ratisser le plus large possible, finalement, qu'importe la catégorie d'âge. Si vous cliquez, vous recevez sur votre téléphone une arnaque au colis, il faut payer 2 euros, etc. 2 euros multiplié par 2 euros, 2 euros, 2 euros. Plus la campagne est large, finalement, plus le gain est important. Donc il y a la partie financière. Et après, il y a une autre partie de la cybercriminalité qui est plus sur, comme le disait Justine, de l'espionnage industriel, récupérer de l'information à son profit, etc. Donc voilà, oui, il y a tout de même un effet d'âge. On va dire peut-être que des personnes qui sont moins sensibilisées vont avoir plus tendance à se faire avoir. Mais les attaquants, je pense, ne ciblent pas uniquement une catégorie d'âge. En fait, plus ils vont pouvoir toucher large, et finalement, la catégorie la plus touchée, ça reste les entreprises.
Alors justement, deux mots rapidement avant notre pause. Les arnaques aux livraisons de colis, ça c'est nouveau et ça se développe?
Alors, c'est pas nouveau, ça existe depuis que la livraison existe et ça se développe par vagues. C'est vraiment par effet de mode. Là, en ce moment, c'est la mode d'un numéro en plus 44, donc qui vient de l'Angleterre, qui vous appelle et qui vous demande de faire telle et telle manipulation pour vous escroquer de l'argent. C'est vraiment par effet de, il y a vraiment un effet de mode chez les attaquants. Donc, c'est par cycle. C'est très automatisé. C'est très, on parle de botnet, etc. Donc, ça dépend de comment les machines et les attaquants ont programmé les machines, parce que ce sont des vraies entreprises, hein, on parle d'entreprises cybercriminelles, donc ils prévoient des campagnes. Alors d'abord, ça va être pendant X temps les colis, pendant X temps Amélie, pendant X temps telle chose, et ça tourne et ils programment les machines et les bots envoient les attaques. Enfin, c'est automatisé, c'est une usine. Hein.
On va terminer avec Justine Van Minden, dite Amidala et Roman Segura, dite Métis. J'adore ces surnoms. Quand je vous appellerai, je dirai allô Abidala, voilà, du cabinet Cyberwings à Marseille. Cyberpiratage, cybercriminalité. On a vu ces derniers temps. Alors, est-ce que c'est lié? Cette pauvre femme, c'est un exemple parmi des milliers qui s'est fait piéger par, disons, un reportage, une photo, une vidéo d'un pseudo Brad Pitt, et on lui a estorqué beaucoup d'argent. Et ça devient incroyable.
Complètement, c'est absolument réel. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, quand on cherche, du point de vue de l'attaquant, cherche à appuyer sur les biais psychologiques, sur les vulnérabilités des personnes qu'on cherche à corrompre ou en tout cas à arnaquer. Là, typiquement, la génération de deepfake, donc de fausses photos, de fausses vidéos de l'attaquant qui s'est donc fait passer pour Brad Pitt, c'est vraiment quelque chose qui se répand et c'est d'ailleurs quelque chose que l'on veille, nous, chez Cyberwings, avec notre écosystème de partenaires, notamment un partenaire qui est spécialisé, donc c'est un laboratoire de recherche spécialisé dans comment on va chercher à hacker les systèmes de reconnaissance faciale. Alors, au début, ils ont commencé par travailler sur des fausses images, des faux masques, voilà, des faux doigts, pour voir comment, en fait, on pouvait hacker la biométrie et se faire passer pour quelqu'un d'autre, mais vraiment physiquement, avec des fausses têtes, etc. Et là, aujourd'hui, ils commencent évidemment à travailler sur l'intelligence artificielle, puisque même plus besoin maintenant de travailler physiquement comme ça sur des leurres. Maintenant, l'intelligence artificielle le fait pour nous. Ouais. Donc, c'est vraiment des nouveaux modes opératoires qu'il faut prendre en compte. C'est le nouveau type d'attaque auquel on sera confronté, hein, forcément, dans les années, dans les décennies à venir.
C'est inquiétant.
Tout à fait, tout à fait. Il est primordial de se préparer aussi à ce type d'attaque, d'en prendre conscience. Et typiquement, pour les entreprises, ce qu'on conseille de faire, c'est de faire du pentest physique. C'est-à-dire que physiquement, on va essayer de rentrer dans les locaux en se faisant passer pour une personne que nous ne sommes pas. Le lien avec les pseudos, on pourra éventuellement aussi le faire après. Mais donc, on se fait passer pour une personne pour laquelle on n'est pas. Donc, n'importe quel, enfin tout dépend après du scénario, mais quelqu'un qui vient pour faire le ménage, réparer telle ou telle machine, etc. Et le but, c'est de rentrer dans les locaux, de voir toutes les vulnérabilités physiques qu'il existe. Est-ce qu'on a pris notre identité? Est-ce qu'on a dû donner une carte d'identité à l'entrée? Est-ce qu'il y a des caméras, etc.? Et d'aller le plus loin possible pour aller chercher de l'information. Est-ce que je peux rentrer dans le bureau de la secrétaire de direction et récupérer tous les dossiers sensibles avec le nom des clients et les contrats? Est-ce que je peux accéder à la salle serveur? Pour nous, c'est vraiment la salle parfaite. Est-ce que je peux brancher une clé USB illégitime? Je la branche dans le système et on va potentiellement après simuler une attaque. Donc ça, c'est bien sûr travailler avec les responsables informatiques, etc. Mais voilà, le but, c'est vraiment d'utiliser ces nouveaux biais pour sensibiliser nos clients et préparer les entreprises et leurs collaborateurs aux nouveaux modes d'attaque de demain.
Alors justement, Abidala et Métis, comme pourquoi? Là, je vous ai présenté, vous êtes deux vraies personnes, vous êtes face à moi, je vous connais. Mais pourquoi Abidala, Métis et d'autres? Comment ça se passe?
Dans notre cabinet, on se présente uniquement sous pseudo. Alors, il y a quelques exceptions pour les personnes, qui sont un petit peu en contact avec les collaborateurs, avec les clients, les partenaires, etc. Mais sinon, 99% de nos collaborateurs sont sous pseudo. Alors, ces pseudos, c'est plein de choses à la fois. D'abord, c'est un clin d'œil à la philosophie, à la communauté du hacking de laquelle nous sommes issus, finalement, parce que dans le hacking, les pseudos sont énormément utilisé. Tout le monde travaille, tout le monde joue, tout le monde se connaît sous pseudo. Donc c'est vraiment ce clin d'œil-là, cet univers du hacking. Ensuite, c'est une façon aussi de protéger nos clients, nos clients parce que, en fait, bah, nous, on accompagne, voilà, les clients à identifier des failles et à se protéger contre ces failles. C'est-à-dire que nos collaborateurs ont la connaissance d'informations très stratégiques, très sensibles pour lesquelles certains acteurs malveillants pourraient avoir intérêt à peut-être exercer des pressions, du chantage, etc. Donc, c'est aussi pour protéger nos clients de ce genre de scénario qui viserait nos collaborateurs, nos experts, pour finalement toucher le client par rebond. Voilà. C'est une façon aussi, ben, voilà, de protéger nos collaborateurs de ce type de pression. Et aussi, il y a un aspect inclusion et éthique, justement, derrière ces pseudos. C'est que finalement, qu'est-ce qui ressort de l'utilisation d'un pseudo, c'est que ce qui va ressortir, c'est pas l'identité de la personne, c'est pas son origine, c'est pas son sexe, c'est la compétence. On sait pas, en fait. On sait pas si on est face à une personne jeune, vieille, une femme, un homme, de telle ou telle origine. L'unique élément qui va ressortir, c'est la compétence.
Ouais.
Donc, il y a vraiment tout un enjeu, voilà, éthique autour de ça, et c'est essentiellement l'intérêt des pseudos.
Alors, un peu d'humour, hein. Je comprends maintenant pourquoi mon ami François, quel grand technicien de RCF, quand il m'envoie des mails maintenant, il se fait passer pour Nosferatu. Donc, je comprends maintenant les pseudos. Donc, c'est important, très rapidement, donc, aussi les particuliers, les entreprises, vous êtes basé à Marseille, mais vous intervenez partout, mais surtout, effectivement, pour les entreprises qui ont besoin de vérifier leurs failles et comment se protéger, c'est bien ça.
C'est exactement ça, et à la manière des attaquants, hein, qui se jouent des frontières finalement et qui même utilisent les frontières à leur avantage, donc en se positionnant dans des pays où la législation est plus permissive et donc où les cyberattaques sont rendues plus faciles, quand bien même l'attaquant serait arrêté, ben en fait, bon, la peine écopée serait peut-être minime, etc. Donc à la manière des attaquants, voilà, qui peuvent travailler finalement n'importe où sur la planète et qui se joue de ces frontières-là. Nous aussi, on est capable d'intervenir partout dans le monde. D'ailleurs, notre organisation même, donc la structure de CyberWings, facilite ce travail à l'international puisqu'on est une entreprise complètement distribuée. On est en 100% télétravail depuis les origines, donc depuis plus de 20 ans, on travaille essentiellement à distance, et bien avant la crise du Covid, tout ça. Et on continue d'ailleurs parce que ça nous permet d'intervenir pour accompagner des clients partout sur la planète, et nos experts aussi sont partout sur la planète, donc oui, c'est tout à fait ça.
Mais c'est le monde de l'intelligence artificielle des grandes multinationales, notamment américaines, c'est-à-dire qu'ils connaissent notre vie par cœur. Je veux dire, on va pas les citer, mais ces grands groupes qui sont pas forcément malveillants, mais ils connaissent tout de notre vie.
Exactement. Après, on leur donne aussi nous-mêmes, en conscience ou non, ces informations-là. Mais en effet, oui, ils ont connaissance d'une grande partie de nos vies. Et c'est pour ça qu'il est vraiment important aussi pour ces grandes entreprises qui ont accès à autant de données à caractère personnel de se protéger et de protéger, outre le fait de protéger l'organisation, de protéger finalement ces données sensibles des individus. Parce que bah, derrière des entreprises, il y a toujours des personnes. Donc oui, en effet.
Cette situation de monopole qui est pointée là, hein, finalement, de dépendance à certaines catégories d'acteurs, des grands acteurs du numérique, notamment américains, elle est réelle. Donc cette dépendance est réelle, mais il existe quand même des alternatives. Il ne faut pas se dire que voilà, dans tous les cas, tout est perdu. Les géants du numérique américain possèdent toutes les informations sur nous et finalement nous pilotent, hein, parce qu'il suffirait d'arrêter un service pour mettre beaucoup d'entreprises dans la difficulté. Non, il existe des alternatives, notamment autour de tout ce qui est communauté de l'open source, du logiciel libre. Il existe beaucoup de solutions qui nous permettent d'être finalement souverains en France et en Europe.
Merci pour cette émission très très passionnante, Justine von Minden, dite Amidala, et Roman Segura, métis du cabinet CyberWings. Cyberpiratage, vous êtes à Marseille, on peut vous retrouver de toute façon, et oui, sur Internet, pour voir toutes vos activités. C'était vraiment hyper passionnant.